Voilà, maintenant, on va entendre ce que Dieu veut nous dire à chacun. Il y a quelque chose à nous dire ce matin, que nous ayons les cœurs grands ouverts. Et ce matin, donc, c'est Jean-Luc qui va nous apporter la parole. On va prier ensemble, simplement, pour que nous recevions. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, que cette parole que l'on va lire, Seigneur, que l'on va entendre, puisse toucher nos cœurs, puisse nous faire avancer, puisse nous sanctifier. Oui, Père, que tu veux que tes enfants grandissent, et je te prie pour cela ce matin, pour que nous puissions nous rapprocher encore un peu plus de toi. Au nom de Jésus. Je te remets aussi Jean-Luc, Seigneur, que vraiment tu éloignes de ton esprit, de ton Saint-Esprit, Seigneur, que vraiment il puisse parler avec puissance, Seigneur, dans ton nom, Jésus. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien? Alléluia. Après ce merveilleux moment de louange, ça marche? Oui. Donc ce matin, je vais vous parler de l'abandon, de s'abandonner à Christ. Sous le sens, hein, donner un autre sens, enfin, s'il est permis de prendre sa croix, donc de venir à la croix. Est-ce que vous aimez la croix? Non, mais je comprends vos hésitations, hein. Vous ne savez pas trop où je vais vous emmener. Mais quand c'est Jésus qui vous pose la question, est-ce que vous aimez la croix par où je suis passé? Pour chacun d'entre vous, je pense que là, la réponse est oui. Amen. Mais quand même, on se pose cette question-là. La croix, elle a quand même une signification et une image qui peut nous impressionner et nous faire peur. Et c'est pour ça que Donc ce terme de s'abandonner à Christ, comme il nous a demandé de porter notre croix. Et donc, vous connaissez bien sûr tous ces termes, prendre sa croix, mourir à soi-même, mais aussi capituler devant l'œuvre merveilleuse de la croix. Et si vous pouvez lire, j'ai pris cette petite strophe d'un chant que vous connaissez bien, enfin pour les plus anciens. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me dire, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Merci de m'avoir suivi, ça aurait été difficile tout seul. Et vous savez, je dis souvent ce verset qui m'a percuté il y a quelques années, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Et donc c'est de tout cela, dans les limites du temps que j'ai, dont je veux vous parler, combien ça nous entraîne à la fois au pied de la croix, mais vraiment dans la nouvelle vie que le Seigneur a désirée pour chacun d'entre nous. Et j'avais écrit, la croix nous coûte la vie, mais nous donne la vie. Et quelqu'un d'autre, qui s'appelle Jeanne Guyon, donc ça fait 350 ans qu'elle avait écrit ça, Dieu nous donne la croix, puis la croix nous donne Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La croix nous donne Dieu. Et donc nous allons, à travers différents passages que vous connaissez certainement beaucoup. Voilà. La croix, c'est la condition du disciple. Et donc dans différents passages dans les évangiles, je crois qu'il y en a 5 que j'ai retrouvés. Rapidement comme ça. Matthieu 10, 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. On lit aussi dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ce passage, il est suite à la magnifique affirmation de foi de Pierre, quand Jésus demande à ses disciples, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et donc Pierre, touché par le Saint-Esprit, dit, « Tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. » Et un petit peu plus loin, donc on continue les versets, et donc Jésus annonce sa mort, qu'il doit mourir pour chacun d'entre nous. Et là, Pierre dit, mais c'est pas possible. Et il dit que son maître, pour lui, c'est impossible qu'il meure. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, tu n'as rien compris, mon ami Pierre. Et donc, c'est ces versets-là qui sont derrière. Donc, Luc 9, 23, c'est le même contexte. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce aussi à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Marc 8, 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et tout cela, enfin tout ce passage-là, j'ai vraiment essayé de le lire avec les disciples au moment où Jésus parlait. Et nous, on connaît l'histoire, on le lit, mais en sachant ce qui se passe après. Et on se dit, mais Jésus prépare ses disciples. Ce temps de formation, qui a duré autour de 3 ans, bien sûr, les disciples pouvaient comprendre une partie des choses, mais ne pouvaient pas comprendre tant que Jésus n'avait pas été crucifié, ressuscité, tant que le jour de la Pentecôte ne soit pas venu. Et donc, il disait ces choses, et c'est vrai avec insistance, de façon à ce que les disciples se rappellent de ces paroles-là. Et Pierre, sûrement, a dû repasser à de multiples reprises toutes les paroles de Jésus, surtout après son reniement. Et lui qui pensait quelque part mieux connaître le plan de Dieu que Jésus lui-même, donc il a compris tout son besoin, toute la nécessité que Jésus passe par la croix, qu'il meure pour lui et qu'il ressuscite afin que nous ayons, nous tous, sa vie, la vie éternelle. Et bien sûr, nous avons une résistance par rapport à la mort qui est tout à fait naturelle. Parce que donner sa vie, ce n'est pas aller au suicide. Dieu est contre le suicide. Mais là, il est vraiment question d'autre chose, c'est de ce qui fait notre ego, notre nature d'orgueil, de dire « Mais moi, je sais et je décide et je me conduis tout seul. Je conduis ma vie tout seul. » C'était mon cas, malheureusement, avant que je rencontre le Seigneur. Ça conduit à certaines conséquences. Certaines, je les paye encore, hein, je peux vous dire. Malheureusement. Mais de vouloir conduire sa vie tout seul, quand on est chrétien, ça peut exister encore. Et nous avons besoin de comprendre que chaque jour, nous avons à nous abandonner entre les mains du Seigneur. Que les conditions soient faciles ou difficiles, facile ou difficile. Parce que la facilité peut nous conduire dans des problèmes. Et la difficulté, souvent, nous amène aux pieds de Jésus. Et là, il est plus facile de s'abandonner. Et donc, bien sûr, pas d'autre possibilité que d'accepter à un moment donné que nous sommes misérables dans notre compréhension de la vie, tout simplement, dans notre compréhension de l'Évangile et dans notre nécessité de comprendre la croix. Et donc, toutes ces humiliations, celle de Pierre, la nôtre, eh bien, nous permettent de grandir. Si ça n'arrive pas dans nos vies, on ne peut pas grandir. Et je dirais, si on ne s'abandonne pas entre les mains du Seigneur, on ne peut pas grandir. On reste dans la superficialité des choses. Donc, l'intérieur n'est pas touché. Bien sûr, on peut venir tous les dimanches à l'église, mais ce dont on a besoin, c'est de tout abandonner, capituler au pied de la croix, en disant « Seigneur, viens à mon aide dans tout ce que je n'ai pas compris. » Donc je vous ai mis ce passage de Jean 21. Et là où Jésus s'adresse à Pierre, donc ce n'est pas tout à fait le même contexte, mais ça nous parle quand même. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il dit « Suis-moi ». On est toujours dans la formation du disciple, on est toujours dans la formation de celui qui veut suivre Christ. Et bien sûr, ce passage annonçait la mort de Pierre et sa mort physique. Mais il annonce aussi quelque chose, que Pierre doit renoncer à lui-même. Et à partir de là, quand notre ego est laissé de côté, on peut suivre Jésus. Et bien sûr, le parcours de Pierre est assez merveilleux parce que on peut dire que c'était un homme sans instruction, sans capacité pour être le premier responsable de l'Église. Mais il a été qualifié par Dieu avec ce qu'il était. Et on lit à la fin de sa vie, dans ces deux épîtres, des mots qui n'étaient pas dans sa bouche au moment où il était avec Jésus. Comme sobre, soyez sobre et humiliez-vous. Donc 1 Pierre 5, versets 6 à 8, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La vie de Pierre a été transformée. Sa nature naturelle, vous savez, on dit le naturel revient au galop. Pour Pierre, c'était ça. Pour nous, ça peut être ça aussi. Et ce naturel a pris fin au bout d'un certain temps. Et le surnaturel de Dieu s'est imposé. Et l'humilité était son chemin à la fin de sa vie. Toujours dans les évangiles, Luc 12, 50, c'est là Jésus qui parle. Il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien je suis pressé qu'il soit accompli. Et bien sûr, ce n'était pas du baptême d'eau que nous connaissons, que Jésus parlait, mais d'un passage par la souffrance de la mort. Et Jésus disait, j'ai hâte que ce soit accompli. Il savait où les disciples, ou tous ceux qui étaient à côté de lui, qui l'écoutaient, qui le suivaient, étaient bloqués. Et Jésus avait hâte d'accomplir la mission que le Père lui avait donnée, afin que nos yeux puissent s'ouvrir, afin que notre compréhension spirituelle puisse s'éveiller, afin que le royaume de Dieu puisse se répandre dans nos cœurs. Et donc, c'est vrai que tous les enseignements, j'imagine, quand ils ont écrit tout simplement les évangiles, donc les témoins qui étaient avec Jésus, ils ont pu écrire et se dire, on ne comprenait pas. Si on l'avait écrit au moment même, on ne le comprenait pas. Mais au moment où ils l'écrivaient pour témoigner de Jésus, là, ils le comprenaient. Parce que Jésus était passé par la croix. Et nous-mêmes, si nous restons juste devant la croix, il y a bien des choses que nous n'allons pas comprendre. Nous avons besoin de capituler devant la volonté de Dieu. Et Jésus a annoncé plusieurs prophéties donc, à son sujet et pour annoncer qu'il devait mourir pour le bien de tous. Et leurs yeux s'étaient ouverts aussi sur le fait qu'il était le Messie, mais malgré ça, ils n'arrivaient pas à tout comprendre. Et à un moment donné, vous vous rappelez cette histoire dans Matthieu 20, où donc les fils de Zébédée. Donc là, c'est la maman qui vient demander à Jésus que mes deux fils soient auprès de toi lorsque tu seras assis à la droite du Père. Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Et ils disent avec aplomb, « Nous le pouvons. » Et bien sûr, c'est sûr qu'ils ont dû réécrire ça. Mais on était capable de rien. On n'avait pas compris toute la dimension de la croix. Et c'est vrai que de parler de la croix, ça demande vraiment de fouiller, de se laisser toucher, de se laisser interpeller par le message qu'il y a derrière. Et on n'aura jamais fini de creuser et de chercher ce que Dieu voulait nous dire à travers des choses toutes simples qui sont écrites dans les évangiles. Et pourtant, ces quatre évangiles, pour moi, ont été importants quand j'étais enfant. À ma conversion, ils ont pris une ampleur, parce que devant mes yeux, il y avait toute la vérité de ce que Dieu voulait pour moi. Et en fait, j'ai compris, j'avais rien compris, quoi. Et ces quatre livres, je les lis avec une faim, une soif, plus que tous les autres livres. Et à chaque fois, je peux vous dire, à chaque fois, il y a quelque chose qui me parle. Parce que ce sont des choses toutes simples. Et souvent, quand Jésus parle, et puis on est interpellé, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et qu'est-ce que tu veux me dire dans ces choses, quoi? Mais ces paroles, comme l'a dit Jésus, sont esprit et vie. Elles ont le pouvoir de nous donner la vie. Mais à ce moment-là, c'est vrai que ce n'était pas le cas. Avant la mort, avant la croix, ces paroles-là ne pouvaient pas avoir leur effet. On va lire dans Romains 6, un passage que vous connaissez bien aussi, tellement il est excellent. Ils sont tous excellents, mais il y a des passages qui nous touchent quand même beaucoup plus. Que dirions-nous donc ? demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que vous comprenez ces paroles ? Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Elle a été crucifiée. Elle a été crucifiée par qui ? Est-ce que c'est par moi ? Est-ce que c'est chacun pour nous, pour nous-mêmes ? Non, elle a été crucifiée par la volonté de Dieu, par notre union avec le Christ, et nous sommes crucifiés avec lui. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché. Afin que la pensée de Dieu, afin que la pensée de Jésus s'installe dans notre cœur et que le désir de péché soit loin de nous. Qu'il perd toute sa force. Car celui qui est mort est quitte du péché. Celui qui est mort est quitte du péché. Si j'étais devant vous mort, vous pouvez me heurter, me toucher, voire m'insulter. Je ne vais pas répondre. C'est fini. Celui qui est mort est quitte du péché. Et cet abandon que nous avons à faire, c'est l'abandon de notre vie, de tout ce qui nous fait réagir d'une mauvaise façon, de tout ce qui, de notre chair, qui est pourri, qui va à la mort, peut réagir encore. C'est d'abandonner ce que nous sommes pour prendre, pour nous confier dans ce que Jésus veut nous donner pour cette journée, quelles que soient les circonstances. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Offrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Livrez-vous vous-même à Dieu. C'est cet abandon, c'est de capituler, dire Seigneur, je m'abandonne. Encore cette journée, à ta croix, sur la croix. Parce que je sais que dans tout ce qui va se passer, je veux me rappeler que ma vie, elle est accrochée à la croix et que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia, quelle grâce merveilleuse, parce que ce n'est vraiment pas dans nos capacités que de ne plus réagir. Ce n'est pas dans nos capacités de contrôler, on va dire, tous les différents instincts ou réactions qui peuvent venir dans notre vie. Mais quand nous savons que notre vie, elle est bien accrochée à la croix et que Christ a transporté cette mort et l'a vaincu pour nous, pour que nous ayons cette vie entièrement en lui. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et donc, là, les dernières fois où j'ai eu à parler du baptême, j'ai repris ces passages-là, où il est dit que baptisé, en grec, était toujours suivi de baptiser dans ou de baptiser en quelque chose. Alors que dans le français, on va utiliser baptiser de ou dans aussi, mais donc on est baptisé dans quelque chose. Et on se souvient aussi que Jésus baptisait des disciples. Pas pour devenir des disciples, mais il baptisait déjà des disciples, des gens qui étaient déjà dans le corps de Christ, dans son Église. Et donc on est baptisé dans quelque chose dans lequel on est déjà. Et tous ces termes, baptisé dans la mort de Christ, ça veut bien dire que nous sommes passés par cette mort. Il y a quelque chose qui a pris fin. Et nous le savons, quand nous sommes nés de nouveau, il y a quelque chose qui a pris fin. Et nous avons ce passage aussi de Colossiens 3, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Est-ce que vous vous répétez ça tous les matins? Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Je ne crois pas qu'on se répète ça tous les matins. On ne se répète pas ça parce qu'en fait, on est en vie et on aime la vie. Parce que d'aimer la vie, je crois que ça vient de Dieu. Et il veut pour nous une vie, et une vie dans l'abondance. Mais c'est pour nous bien nous rappeler qu'il y a quelque chose de mort en nous, quoi. Et surtout, n'allons pas déterrer ce qui est mort. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et bien sûr, dans ce passage, il y a deux choses. Car vous êtes mort, c'est une affirmation, vous êtes mort. Et pourtant, il est dit juste un peu plus loin, faites donc mourir. Donc il y a aussi une décision quotidienne, régulière, de dire, mais je m'abandonne pour que je meure à mon ancienne vie et que je prenne la vie que Dieu veut pour moi. Et Romains 6, 13 nous dit, vous avez dit, ne livrez pas et livrez-vous. C'est un petit peu pareil, quoi. Il y a un renoncement aux choses qui étaient imprimées par le péché en nous-mêmes. Et livrez-vous, c'est-à-dire rentrez dans cette nouvelle vie. Et quand nous disons, Seigneur, je te donne ma vie, bien sûr, c'est un abandon à tout ce que nous sommes, que nous abandonnons à la croix. C'est vraiment un renoncement à agir sans le Seigneur et surtout à réagir. Et donc l'abandon quotidien dans la confiance quotidienne du bénéfice de la croix, c'est pour que le gros moi, mon ego, soit vraiment cloué à la croix chaque jour. Qu'on se rappelle que ce soit si présent que ça ne bouge plus. Et c'est vrai que ce n'est plus dans notre force de conviction personnelle, en serrant les dents, en disant « je suis mort, je suis mort, je suis mort », en se le répétant, que les choses avancent. Mais c'est vraiment tout le secours de Dieu. Et Je ne sais pas si vous l'avez fait, hein, mais face à certaines situations, quand vous dites, mais Seigneur, rien de rien, je ne veux que rien de mauvais ne sorte de ma bouche. Et je t'abandonne cette situation, tu as payé pour moi. Remplis ma bouche, remplis mon cœur. Si vous avez fait cette expérience, vous savez que le Seigneur vous a secouru. Mais dans toutes les situations de nos vies, nous avons besoin. Dans nos journées, on ne sait pas comment elles vont se dérouler. Nous avons besoin du secours de Dieu. De dire, mais ce n'est pas en moi que je me confie. Et ce n'est pas en me disant, ça va rentrer, ça va rentrer. Non, c'est en disant, Seigneur, je me confie en toi. C'est toi qui es mon secours. Il y a quelque chose que je ne veux plus voir remonter à la surface. Donc ce fameux verset, Galates 2:20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis. Alléluia, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi, je sais que mon Rédempteur vit, qu'il a tout accompli à la croix. Je sais qu'il a renversé le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché, le pouvoir de Satan sur moi, sur ma propre vie, la vie de toute l'humanité, bien sûr, je n'étais pas le seul. Et je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui a remporté cette victoire afin que nous soyons libres, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc, bien sûr, il faut se livrer à Christ. N'ayez pas peur de le faire, je vous le répète, hein, mais n'ayez pas peur de le faire tous les matins, hein, et quelquefois, peut-être plusieurs fois dans la journée. Et j'ai pris cet exemple de la greffe, on en a déjà parlé. Vous savez presque tout sur la greffe. Alors je vais vous dire, moi je sais pas presque tout, je sais qu'un tout petit peu. Parce que j'en ai jamais fait. J'ai vu le résultat, mais je ne l'ai pas fait. Par contre, Dieu voulant, je vais l'essayer cette année. Et donc le porte-greffe, dans notre exemple, il est où le pointeur déjà? Je ne sais plus. Le porte-greffe, donc c'est la partie la plus grosse, vous voyez la cire qui est dessus. Le porte-greffe, c'est celui qui va recevoir la greffe. Donc, imaginons, il me semble que c'est un pommier. C'est un pommier jeune qui a poussé dans votre verger. Cette variété-là, vous en avez déjà beaucoup. Et puis, vous voulez une autre variété. Donc, ben, vous lui coupez la tête. Radical. Après, vous lui faites une incision. Bon, il y a plusieurs formes, hein, plusieurs techniques, plusieurs écoles. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Le porte-greffe, on va dire, il renonce à sa vie. Hein, parce qu'on vient descendre donc avec un rameau d'une autre variété, celle qu'on aime, celle qu'on veut. On va la rentrer dans le tronc. Pour cet exemple-là, on va tout bien colmater, qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas d'eau à passer. Et donc, au printemps, c'est la nouvelle variété qui va commencer à pousser. Et donc, quand on achète, comme je l'ai fait encore dernièrement, des pommiers donc, qui sont greffés, la greffe, on la voit encore, mais c'est bien la vie d'une nouvelle variété et non plus de l'ancienne. Alors, c'est aussi possible qu'un porte-greffe il en fasse qu'à sa tête. Hein. Parce qu'il y a des rejets qui peuvent pousser et puis ben, qui peuvent nuire. Donc, le bon jardinier, il vient... il vient émonder, il vient couper. Alors, notre vie ressemble à ça quand même. Hein. Notre vie en Christ, hein. C'est qu'à un moment donné, dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Et le Seigneur fait cette opération de greffe. Il greffe en nous sa nature. Alléluia. Alléluia. On va faire de la greffe ? Bon. Et alors, dans certaines conditions, je me rappelle de quelqu'un qui avait témoigné comme cela. À propos de ce verset qui disait « Mais vraiment, je n'ai pas les capacités. Je crois que c'était d'aller voir sa fille à l'hôpital. » Dans une situation qui était assez grave. Et qui disait « C'est pas moi qui vais à l'hôpital. C'est Jésus qui va à l'hôpital. C'est Christ qui va à l'hôpital. » Et c'est cette expérience que nous devons faire aussi. Christ vit en nous. Si nous sommes bien greffés, Christ vit en nous. Et c'est lui qui va à l'hôpital, qui va au travail, qui va à l'église, qui va faire les courses, etc. Que sa nature, à lui, prenne toute la place. Parce que nous sommes morts. Et pour finir, un autre passage donc dans l'évangile de Jean. Alors là où il y a des Grecs qui sont donc... alors les Grecs, ça peut être des Grecs de Grèce ou des Grecs d'Italie ou de Bretagne, peut-être pas à l'époque, mais donc des étrangers, quoi. Et qui sont là, qui ont entendu parler de Jésus et qui disent donc aux disciples, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. » Est-ce que vous voulez voir Jésus ? Alors on va suivre. Accrochez-vous, vous connaissez ça par cœur. Mais donc Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, c'est là que c'est intéressant, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié, je le glorifierai de nouveau. Amen. Cet exemple du grain de blé qui est pris par Jésus. Alors les grains de blé, ils sont où en ce moment ? Ils sont dans la terre. Et puis je me suis dit, bon, j'ai grandi et fait toute ma vie quasiment dans l'agriculture, donc c'est des choses que je peux connaître, mais il y a des choses qui continuent de me surprendre dans le règne vivant. Et ce grain de blé, pour se reproduire, il faut qu'il sorte du petit cocon, peut-être du grenier, qui était bien chaud. Il faut qu'il sorte de cet endroit et qu'il soit jeté dans la terre froide. Parce que c'est en automne, en hiver. J'ai encore vu des gens semer du blé au mois de janvier, là, vu les conditions climatiques. Donc je peux vous dire que la terre, elle est froide et elle est humide. Ce n'est pas confortable. Et ce sont les conditions de reproduction du blé. C'est-à-dire que ce petit grain... Donc il doit faire, comme vous voyez, bon, difficilement, hein, mais produire des petites radicelles et puis donc une plante qui va percer la terre et sortir. Et donc tout ça avec la terre, l'humidité qui fait son effet, mais il y a autre chose qui fait son effet. Il y a autre chose qui fait son effet. Ce petit grain de blé, il a été créé par Dieu aussi. Et il y a la vie de Dieu qui est dedans. Donc il y a une nature qui va se, on peut dire, se décomposer, qui va mourir, mais pour donner vie. Et pour le blé, lui, il doit être mis en terre en hiver, parce qu'il doit avoir subi un certain nombre de jours de froid pour que la plantule, parce que le blé, il est en herbe, enfin, on le voit déjà maintenant, jusqu'au printemps, puis d'un coup, vous voyez l'épi qui va monter. Pour qu'un épi monte, il faut que cette plante de blé, qui est, enfin, cette herbe, on va dire, ait subi un certain nombre de jours de froid durant l'hiver pour pouvoir donner cet épi. Sans ça, ben, y a pas de, ça reste de l'herbe. Ou alors des tout petits épis. Et je trouve que c'est vraiment un exemple très parlant, parce que je me dis, mais Seigneur, ce grain de blé, c'est toi qui l'as fait. Tu as mis dans tous les organismes vivants le pouvoir de se reproduire, un pouvoir de vie qui n'existe pas autrement, qui ne se reproduit pas autrement. Tu as fait cette terre aussi pour qu'elle soit un lieu qui ne soit pas hostile, mais un lieu qui soit favorable à ce que le grain de blé pousse et donne jusqu'à 100 nouveaux grains de blé. Et alors je me dis, Seigneur, et pour nous, que tu as fait à ton image, en qui tu as voulu faire ta demeure, et pour nous, comment nous croirions que ce n'est pas possible que la vie de Dieu prenne toute la place alors? Si dans un tout petit grain de blé comme ça, il y a la vie qui se reproduit, qui se multiplie, qui donne à manger aux hommes, nous voyons bien que c'est la grâce de Dieu, que c'est l'action de Dieu. Même si on peut vous dire, mais on peut faire une nouvelle terre, on peut faire des nouvelles semences et tout ça. Alors je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est qu'on avait essayé de faire se reproduire des semences clonées et que ça n'a jamais marché. Il manquait quelque chose dedans. Et ce quelque chose, c'est la vie de Dieu. Et alors devant ça, je me dis, mais Seigneur, mais tout est possible pour nous alors. Si nous plaçons de tout notre cœur, notre foi, dans ce que tu as fait à la croix, par là où tu es passé. La croix, elle a renversé l'humanité. Il y a eu un avant, il y a eu un après. L'humanité n'a pas été la même. Et même si nous sommes une très petite minorité, ça ne remet pas en cause toute la puissance de cette croix. Toute la puissance de ce que Jésus a accompli sur cette croix, pour que nous ayons la vie, mais pas des miettes, mais la vie en abondance. Amen. Et bien sûr, quand il est dit, je reprends l'original. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur, c'est-à-dire mon serviteur sera là où je serai. Amen. Et donc arrêtons de tout voir comme des catastrophes où les circonstances ne nous appartiennent pas. Dans tout ce qui se passe dans nos vies, je ne l'ai pas compris tout de suite non plus, Dieu utilise les circonstances. Il est au contrôle afin que dans ces circonstances, il puisse nous parler. Afin que dans tout ce qui peut se passer, dans tout ce qui peut arriver dans notre vie, nous nous disions, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est sûr que au premier abord, je ne sais plus quoi faire. Ça me dépasse. Et Mais je pus utiliser ces circonstances, les régler comme si je ne t'appartenais pas. Et donc il y a 3 ans et demi, donc j'ai été licencié du travail où j'étais. Et donc ça devait être milieu de semaine où les choses se sont tombées. Et je peux vous dire, enfin je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que dans votre cœur ça fonctionnera de la même chose, de la même façon. Il y a du combat. Hein. Et je me rappelle, c'était un samedi fin d'après-midi, je pars courir. Et puis je fais 1 kilomètre ou 2, ça ruminait. Hein. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, si tu ne t'arrêtes pas de combattre, je ne peux pas combattre pour toi. Terminé, je ferme le livre. Alléluia Seigneur. Je le savais déjà. Bien sûr, on sait ces choses-là, on dit, mais Seigneur, tu es avec moi. C'est sûr que la fin de ma carrière, je ne l'avais pas vue comme ça. Mais tant mieux, je suis très bien dans ce que je fais aujourd'hui. Mais si à un moment donné, le Seigneur ne nous parle pas dans notre cœur. Mais nous sommes faits pour ça, mes amis. Il a mis sa vie en nous. C'est pour que nous recevions quelque chose de lui. Et donc quand il me dit ça, je savais que c'était, je n'avais pas à combattre. Je n'allais pas aller au prud'homme, comme bien des personnes me conseillaient. J'ai dit non, c'est fini. Et les choses se passeront comme elles se passeront. Et dans bien des situations, nous pouvons dire, arrêtons de combattre, car Dieu ne peut pas combattre pour nous. Et donc notre vie, elle est là pour, si Dieu nous a donné cette vie, nous a amenés jusqu'à là aujourd'hui, en 2020, c'est aussi pour être à ses côtés. Mon serviteur sera là où je serai, pour être chaque jour avec lui. Et c'est vrai que c'est une expérience jour après jour de dire, malgré les situations, Malgré, Seigneur, c'est cette prière qui monte en nous. Seigneur, tu es là. Je te confie ces situations. Je ne comprends pas, Seigneur, mais toi, tu as l'explication à tout. Tu as la signification du pourquoi des choses. Et peut-être je n'ai pas tout savoir. Mais Seigneur, je veux être sur ton chemin. Alors, c'est vrai que Dieu nous donne la croix. Puis la croix nous donne Dieu. Amen. Et lorsque nous acceptons toutes ces choses comme venant de Dieu, bonnes ou mauvaises, la croix nous montre encore le chemin et nous le montrera jusqu'au bout. Et s'abandonner à Dieu, c'est, je peux vous dire, ça nous conduit de plus en plus proche de lui. De plus en plus dans son intimité, de plus en plus dans sa révélation, de plus en plus aussi dans la sanctification, parce que ce que fait le Seigneur lorsqu'on est dans sa présence, c'est qu'il nous communique sa nature. Amen. J'en arrête là. On va prier. J'espère que je n'ai pas été trop long et que ce que le Seigneur a voulu faire passer par ma bouche, vous ayez reçu quelque chose. Seigneur, tu es bon. Tu es infiniment bon dans tout ce que tu fais, Seigneur. Et Seigneur, quand, c'est vrai, nous regardons ce petit grain de blé dans lequel il y a la vie et que tu mets la vie dans ce petit grain, Seigneur, pour que nous ayons à manger, Seigneur, a bien plus forte raison, Seigneur. Tu t'occupes de nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que chaque jour, Seigneur, nous abandonnions notre vie, Seigneur, à la croix, où tout est accompli. Oui, Seigneur, où tu t'es chargé de notre vie, Seigneur, et que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, Seigneur. te prie de faire grandir dans le cœur de chacun, de chacune, Seigneur, toute la foi nécessaire, Seigneur, pour que dans leur vie, Seigneur, dans ce qu'ils traversent, Seigneur, ils reçoivent de toi, Seigneur, ce dont ils ont besoin, Seigneur. La mesure de foi, Seigneur. Oui, Seigneur, la capacité, Seigneur, à se tourner vers toi. Et que rien d'autre, Seigneur, ne les distrait. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en chacun d'entre nous. Nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous voulons que ta vie, Seigneur, oui, elle soit manifestée dans nos cœurs et dans nos êtres tout entiers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.